Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Please be careful when opening the overhead compartments. It items may have shifted and could fall out. You can now switch on the mobile services on your phone again. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you could stay on board.
Benvenuti a Roma. Bienvenue à Rome.
Buongiorno Roma. Suivez le guide, vous emmène dans la ville éternelle. Nous sommes au centre ouest de la péninsule italienne. La thématique principale de cette série romaine, mais aussi française, ce sont les cinq églises administrées par la fondation Les Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette. Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne, Saint-Yves des Bretons, Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts et Saint-Nicolas des Lorrains. Le cadeau bonus nous permettra pour clore la série d'entrer dans la basilique Saint-Jean de Latran.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Denis Chamin est chancelier de l'association Les Amis de Saint-Nicolas des Lorrains à Rome. Et c'est avec Denis que nous visitons les six églises en prenant le temps de vous faire découvrir d'autres aspects de la capitale et de la vie romaine. Ce quatrième chapitre de nos vacances romaines nous emmène à Saint-Louis des Français, accueilli par un dominicain, Renaud Escande, administrateur des Pieux Établissements, et sœur Anne-Cécile Bram nous accueillera, comme elle vous a peut-être déjà accueilli, à la communauté Fraterna Domus. Un enregistrement réalisé en octobre 24, en lien avec le jubilé 25, ouvert officiellement le 24 décembre à 19h. Le pape François a déclaré 2025 année jubilaire, avec pour thème « Pèlerin d'espérance ». Cette tradition, vieille de 700 ans, revient tous les 25 ans. 35 millions de visiteurs sont attendus à Rome, mais ce mois d'octobre 2024, il y avait déjà foule partout dans le centre historique.
Benvenuti a Roma. Bienvenue à Rome.
Je pense que la première chose qu'a dite Denis Chamin quand je l'ai retrouvé, c'est « il faut que j'aille au pieu ». C'était pas une grosse fatigue, mais Denis, il fallait absolument passer aux pieux établissements.
Ah bah, c'est un point de passage obligé quand on est français, quand on s'occupe d'église française à Rome, quand on s'y intéresse. Il est incontournable, l'administrateur des pieux. Donc il va dire lui-même ce qu'il fait. J'en ai connu quelques-uns avant c'est vous, vrai. Mon père. On venait de rappeler la mémoire du père Cloupet, que j'ai beaucoup aimé, qui était un homme extraordinairement énergique, de petite taille, mais alors avec une intelligence vive. Enfin, c'était quelqu'un d'absolument adorable. Et c'est avec lui que j'ai commencé un peu à travailler.
L'aventure de Saint-Nicolas.
Voilà.
Donc, Renaud Escande, vous êtes l'administrateur des pieux établissements de la France et de Lorette. Mais qui est Lorette ?
Alors, Lorette, c'est un immense sanctuaire qui a connu un succès phénoménal depuis le 15e siècle, qui a un petit peu vu son rayonnement pâlir grâce ou à cause de Lourdes en France, mais qui accueille la Sainte...
Lourdes a fait de l'ombre jusqu'ici.
Exactement. C'est un grand site marial, un grand site de vénération mariale, où à l'intérieur d'une immense basilique se trouve la maison où la Vierge Marie a élevé avec Joseph l'enfant Jésus. Et nous avons donc dans ce lieu-là une chapelle qui se trouve être la chapelle du Saint-Sacrement, et à côté du sanctuaire, un immeuble, une chapelle-nie qui accueille des pèlerins.
Et c'est où géographiquement ?
Alors c'est de l'autre côté de l'Italie, c'est sur la mer Adriatique, et donc c'est près de Modène, du côté oriental de l'Italie.
Bon, alors quelques mots, Renaud Escande, pour nous expliquer, nous présenter ce que sont les pieux établissements.
Pour le dire d'une phrase, les pieux établissements, c'est une institution ancienne, du 15e siècle, de droit italien privé et mise sous la tutelle de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Alors c'est un objet un peu particulier d'un point de vue juridique, mais c'est une longue histoire qui regroupe ici à Rome et donc à Lorette les différentes possessions françaises qui ont fait l'histoire de la France à Rome et qui ont été réunies en un seul ensemble en 1793, donc après la Révolution française, par le cardinal de Bernis, sous une seule entité, l'administration des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, qui gère donc toutes les propriétés ecclésiales. Nous avons cinq églises à Rome, dont Saint-Nicolas-des-Lorrains, mais je dois y adjoindre Saint-Yves de Breton, Saint-André et Saint-Claude des Bourguignons, la Trinité des Monts et ici, donc où nous sommes, l'église nationale Saint-Louis des Français, plus des bâtiments ici à Rome, dans le cœur de Rome, qui sont des bâtiments locatifs et qui me permettent, par les revenus qu'ils apportent, de répondre aux trois missions des plus établissements qui sont les mêmes depuis le 15e siècle, alors qui ont été plus ou moins théorisées, mais nous avons maintenant une marche à suivre, trois missions, trois verbes, accueillir les pèlerins, l'ADN des pieux établissements depuis le 15e siècle. 15e siècle, c'est le retour du pape d'Avignon. C'est pour ça que, vraiment, voilà. Donc l'accueil des pèlerins, l'accueil physique, ici à Rome, mais aussi l'aide aux pèlerins qui ne pourraient pas venir à Rome pour des questions financières ou d'handicap. Donc nous avons mis en place un fonds d'aide aux pèlerins. Il y a l'aide au peuple romain. Nous sommes, nous, pieux établissements, en lien constant avec des grandes associations qui aident la population romaine. Là, nous allons, dans quelques semaines, inaugurer un hôpital pour personnes atteintes d'Alzheimer, mais qui vivent très pauvrement et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir être accompagnées dans des institutions adéquates. Donc, nous avons créé ça avec l'association Caritas, mais nous offrons comme cela avec beaucoup d'associations romaines. Et la troisième mission, celle qui m'occupe beaucoup parce qu'elle prend pas mal de temps, c'est faire rayonner à travers les cinq églises et les palais, l'art et la pensée française, en organisant des concerts, la restauration bien sûr des églises, des expositions, des colloques, etc., etc.
La restauration, si j'ai bien compris, la restauration des églises est quasi permanente.
Alors elle est quasi permanente, elle a pris un coup d'accélérateur cette année, je dois vous l'avouer, parce que nous nous préparons à nous faire tout beau pour l'année jubilaire.
Un gros lifting
qui coûte pas mal.
Les liftings, c'est pas donné en général.
Exactement, mais le résultat sera absolument magnifique. Je sais que vous êtes très attaché à Saint-Nicolas-des-Lorrains, nous avons déjà quasiment là un joyau parfait baroque à l'église Saint-Nicolas-des-Lorrains. Il restera deux petites toiles à restaurer, mais vraiment, pour le coup, c'est pour que la perfection n'est pas de ce monde, c'est pour s'y approcher au plus. Mais ce sera en 2026, puisque nous ne voulons plus faire de travaux pendant l'année jubilaire pour accueillir tous les pèlerins.
Le premier talent que doit avoir l'administrateur, c'est le talent de gestionnaire. Alors, on parlait d'art.
Alors, moi, c'est vrai que par rapport à mes prédécesseurs, je suis là tout le temps, je suis en poste à plein temps. J'ai donc un passé un peu de passionné d'art et d'historien de l'art. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne et je mets de la vie dans tout cela. Il faut être passionné de patrimoine, il faut être passionné d'histoire et puis passionné des gens aussi et passionné de Dieu aussi, quand même,
aussi, pour le coup. Oui. Est-ce que vous êtes d'abord prêtre ?
Je suis dominicain.
Dominicain.
Donc, l'ordre des prêcheurs. Et je venais ici pour faire une année sabbatique. Ça faisait 20 ans que j'étais dans l'édition, aux éditions du Cerf. Je venais me reposer et au bout de 3 mois, l'ambassadrice, parce que je relève donc d'elle et du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice m'a choisi pour ce poste sublime.
Qu'on ne peut refuser.
Qui n'est pas facile, mais qui est en tous les cas absolument passionnant.
Concernant Saint-Louis des Français, vous avez parlé d'église nationale.
Oui, alors c'est une église nationale, comme les autres nations en ont à Rome. Nous avons l'église nationale tout à côté espagnole, l'église nationale portugaise qui est tout à côté ici, allemande aussi. Mais nous avons la chance d'en avoir 5. Mais parmi ces 5, il y en a une qui a véritablement une histoire propre avec l'État français, avec à l'époque la royauté française, et Saint-Louis des Français, donc commandé au XVIe siècle par Catherine de Médicis, est vraiment payé par la royauté française et l'église de fait nationale française ici. Suite à l'incendie de Notre-Dame, on a été obligé que toutes les églises françaises se mettent un petit peu au régime anti-incendie, donc on peut dire ça comme ça. Donc nous avons œuvré et nous sommes en train de le faire pour la sécurité incendie, la sécurité des personnes et des œuvres. Et puis nous en avons profité, les échafaudages étant là, pour refaire toute l'illumination de l'église. Et nous avons pour cela demandé à un artiste qui est très connu en Italie et qui a éclairé la chapelle Sixtine, qui a fait l'illumination de la chapelle
Normalement,
Sixtine.
Normalement, quand on a ça sur sa carte de visite...
Exactement. Parce que l'église Saint-Louis est une église difficile à éclairer, notamment pour son... Il y en a beaucoup de trésors dans l'église, mais son... grand trésor qui est la chapelle Cantarelli qui accueille les trois grands Caravages et qui est de fait une chapelle très sombre comme l'a voulu Caravage, mais qu'il faut aussi éclairer parce que nous avons et nous voulons, nous contemporains, voir le souci du détail.
Tout en protégeant les toiles, bien sûr.
Ah, bien entendu, absolument.
Comment fait-on pour jeter un œil?
Alors, venez, suivez-moi.
Donc là, on passe pas par la grande porte. Hein.
Non, on passe par la sacristie. Et donc, on va suivre le parcours des prêtres. Pour l'instant, hein, oui. Parce que sinon, les prêtres passent par le grand couloir.
D'autant que la grande porte est fermée, de toute façon.
Nous allons utiliser le boyau qui part de la sacristie par un petit couloir.
Hein, c'est presque un passage secret. Hein.
Exactement. Et nous allons atterrir.
C'est étroit. Étroit.
Dans le cœur de l'église.
Waouh. Bonjour, merci. Hein.
Nous sommes dans le cœur de l'église. Alors vous voyez, seule la nef est dégagée. Tous les bas-côtés sont bâchés, on veut dire, c'est le cas de le dire, bâchés pour accueillir les échafaudages, pour monter dans les travées et changer toute l'électricité ancienne, tous les vieux fils. Voilà, vous avez vu, ici nous sommes dans le cœur des moines, des chanoines à l'époque, du XVIIe et XVIIIe siècle, pour le bois. Et toutes les lumières ont été enlevées et vont être remplacées pour accueillir un système d'illumination beaucoup plus récent, beaucoup plus beau et surtout beaucoup moins visible que ce qu'il y avait auparavant.
Oui, bon, c'est un investissement quand même. Hein.
C'est un investissement et nous profitons aussi, j'ai oublié de le dire, de refaire toute la sonorisation de l'église pour qu'on ait une meilleure participation des fidèles et des prêtres.
Un instrument absolument merveilleux.
Alors, l'instrument, je peux
d'ores et déjà le dire. Alors, l'orgue, face à nous...
L'orgue est un orgue sublime, sans doute un des plus beaux de Rome. Du reste, Saint-Louis a été, depuis le XVIIe siècle, a été très réputé pour ses maîtres de chœur. Il y avait ici les plus grands maîtres de chœur qui tournaient à Rome entre Saint-Louis, la chapelle Sixtine, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-Latran. Et nous avons depuis le 19e siècle, depuis 1880, le plus beau, le plus bel instrument qui a été créé par Merclin. Vous savez qu'en France, à l'époque, il y avait deux organistes qui se répaient le chignon, on peut dire, Cavaillé-Colle et Merclin. Et donc, c'est Merclin qui a eu le projet, qui l'a réalisé. Nous avons sur cet orgue beaucoup, beaucoup de concerts. Et nous avons un organiste titulaire qui est italien, mais qui a fait toutes ses études au Conservatoire de Paris et qui vient depuis Paris pour faire des concerts tous les mois. Alors, le problème est que... Enfin, le problème et la chance, c'est que cet orgue est resté dans son jus depuis 1881. Il n'a jamais été restauré. Et je viens de signer le devis de restauration. Donc, il partira en 2026 pour 2 ans à Lyon, parce que Merclin et les spécialistes mondiaux de Merclin, Merclin était lyonnais, sont encore à Lyon. Donc, il partira pour Lyon et il reviendra 2 ans après, encore au plus beau. On pourra jouir de ses harmonies. Et pendant ce temps, nous ferons l'acquisition d'un orgue positif.
C'est quoi un orgue positif?
Un orgue de chœur, en fait. D'accord. Un orgue de chœur qui pourra et servir pour les concerts baroques et en même temps pour servir à la liturgie d'abord et avant tout.
Français a été bâti, enfin les travaux, c'est pratiquement tout au long du XVIe siècle.
Alors, la première pierre a été posée au début XVIe siècle, oui. C'est prolongée durant tout le XVIe siècle. Elle a été inaugurée en 1586. Mais, telle que vous la voyez, l'église n'était pas ça au XVIe siècle. Elle était blanche. L'église qu'a vu Caravage, qui a peint ses œuvres en 1599, n'était pas du tout comme cela. Hein. On voit une église gothique, pas du tout ce chœur, là où nous sommes. Hein. Ce chœur a été véritablement aménagé à 1756. Et ce n'est qu'à cette époque-là, sous la direction d'un Français qui vivait à Rome, à l'Académie de France, à la Villa Médicis, qui n'était pas encore la Villa Médicis, mais à l'Académie de France, l'architecte de Rizet, qui a complètement baroquisé toute l'église en refaisant le chœur d'abord avec des grands artistes comme Pierre de Lestache, en remettant le bassano au lit qui est beaucoup plus ancien comme peinture de chœur, et quelques années après en mettant du marbre partout et des dorures partout, ce qui fait que nous avons cette espèce d'écrin baroque tout à fait génial. Mais il faut, quand vous le voyez, s'imaginer que les plaques de marbre qui sont au mur ne font que quelques millimètres. Ah ouais. Et l'église Saint-Louis est témoin. Nous avons du reste un vrai problème à Rome, et c'est pas que Saint-Louis, un problème de colle des marbres du 17e, du 18e siècle. Et nous sommes témoins, vous voyez ici derrière le chœur, les fils électriques qui en fait sont posés sur les plaques de marbre et qui analysent depuis un an la salinité, l'humidité, le mouvement des plaques, pour essayer de comprendre pourquoi les plaques de marbre se décollent. Donc il y aura tout un processus en 2026. On va recoller les plaques de marbre et ça va aider toutes les églises romaines qui ont ce même problème.
Mais colle tout n'est pas forcément la solution.
Tout à fait, non, tout à fait.
Retrouverons Renaud Escande à Saint-Louis des Français. Mais Anne-Cécile Bram, sœur Anne-Cécile Bram, nous attend à 400 mètres de là, à Fraterna Domus, presque au bord du Tibre. L'offre de Fraterna Domus est très complète. Vous pouvez y boire, manger, dormir, prier et même repartir avec un guide sur Rome, dédicacé par l'autrice Anne-Cécile Bram.
Seguite la guida in Italia. Suive lo guide en Italie.
Une double rencontre à Rome avec Anne-Cécile Bram, qui a publié cet ouvrage « Rome vous surprendra, réponse aux questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées ». Et rencontre avec également sœur Anne-Cécile Bram. Bien sûr, c'est la même personne, mais vous êtes sœur de cette communauté de la Fraterna Domus. On va d'abord parler de la communauté de la Fraterna Domus dans laquelle je vous retrouve ici, dans cette maison qui se trouve Via di Monti Brianzo. On n'est pas loin du Tibre et on est au cœur de Rome. Communauté dans laquelle vous accueillez les visiteurs, les pèlerins, enfin celles et ceux qui souhaitent venir vivre un hébergement avec les sœurs. Et c'est vrai que des hébergements dans les communautés religieuses, c'est assez courant, somme toute, à Rome.
C'est assez courant. Également, ça montre que Rome est une ville unique, hein, puisque il y a le siège de l'Église avec le pape. Hein. Et c'est vrai également que les communautés religieuses, depuis toujours, en fait, ont pour but l'accueil. Donc notre communauté est née il y a une cinquantaine d'années, juste après le Concile Vatican II, et elle a vraiment pris au sérieux, disons, notre fondateur, qui était Don Francesco Bisinella, qui était un capucin, a vraiment pris au sérieux l'invitation du Concile à ouvrir les portes et à accueillir tout le monde.
Même votre communauté a plusieurs sites à Rome, et dans Rome et à l'extérieur de Rome.
Exactement, on a un grand centre qui est en dehors de Rome, près d'un petit village qui s'appelle Sacrofano, et là on a également un centre de congrès. Enfin, c'est beaucoup plus grand, sur 30 hectares, donc c'est un lieu qui est très très apprécié.
Quelles sont les valeurs portées par Fraterna Domus, qu'on peut traduire par alors la maison fraternelle?
Oui, tout à fait. Alors la grande caractéristique et peut-être unique de notre communauté, c'est que elle a les portes ouvertes, mais à 360 degrés. Donc on peut avoir le synode, par exemple, qui a fait sa retraite spirituelle. Avant justement le grand travail du synode l'année dernière, fin septembre, donc on avait des cardinaux, des évêques du monde entier, ça a été un moment très très riche. Et en même temps, on avait des immigrés qui étaient au centre de la maison et qui, justement, attendaient le couloir humanitaire. Donc, on nous avait demandé d'héberger des immigrés. Ce que, depuis le départ, si on peut dire, depuis 50 ans, c'est vraiment notre vie quotidienne.
Combien de sœurs êtes-vous, donc, Fraterna Domus ?
On est une vingtaine, mais la maison est ouverte à toutes les nouvelles vocations. Ceux qui aiment la vie active, ceux qui aiment le contact avec les gens et ceux qui aiment tous les aspects de la vie quotidienne.
Alors, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer, parmi les sœurs, donc toutes les sœurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer ici Via di Montebrianzo, sœur Milena, et donc vous, Anne-Cécile, on vient loger ici. Il y a une vingtaine de chambres ici, c'est ça?
C'est ça, oui. La maison est assez petite, mais pour les petits groupes, c'est parfait. Et puis pour ceux qui viennent tout seuls, pour le travail, pour les vacances, etc.
On dort ici, on prend son petit déjeuner ici, et en plus, celles et ceux qui le souhaitent peuvent dîner ici.
Et également déjeuner.
Et déjeuner aussi, oui.
Le restaurant est ouvert
tous les repas.
Exactement. À la base, notre fondateur, donc Don Francesco, avait pensé que quand il y a des familles qui viennent, donc ils dorment ici, mais ils ont également la possibilité de manger, puis également on sert assez rapidement, la nourriture est très bonne, et puis donc ça évite d'aller au restaurant, puis d'attendre une heure ou deux d'être servi. Donc quand il y a des enfants petits, alors c'est très pratique, souvent ils viennent en pyjama le soir, et puis après ils vont au lit.
Voilà, c'est un repas complet, hein. Premier piatti, alors les pâtes toujours, avec au choix, seconde di piatti, donc une viande, des légumes, et puis ensuite la salade et un dessert. Hein.
Et un dessert, et souvent il y a un gâteau vraiment fait par le cuisinier, tout est frais, préparé le matin.
Donc même les marbrés du petit déjeuner sont faits maison ?
Tout à fait.
Et ils sont très bons.
Ils sont très bons. Hein.
Alors ce ne sont pas les sœurs, vous n'êtes pas vous-même Anne-Cécile au fourneau ?
Ah, il vaut mieux pas, non. Chacun ses dons. Cuisinière, pas encore. Mais effectivement, on a un cuisinier donc, qui est marié, qui a des enfants et qui est très doué, effectivement.
L'accueil, c'est pas toujours si simple. Hein. Ça demande quand même beaucoup de disponibilité sur des plages horaires très amples. Hein.
Oui, tout à fait. Il faut être prêt le matin.
Ça sonne, ça vient de sonner.
Voilà, il y a des gens qui vont rentrer. Mais effectivement, c'est une présence, tout simplement. C'est, disons que notre but, c'est d'avoir une maison qui est ouverte. Donc effectivement, il faut être présent, il faut être là. Tout le monde nous dit qu'ils se sentent comme chez eux, voilà, à la maison.
Voilà, je vois effectivement une dame qui a accueilli et qui est... Et c'est Sœur Milena qui la prend dans ses bras. Vous ne m'avez pas pris dans vos bras quand je suis arrivé ?
On y pensera.
Est-ce que la plupart des personnes qui sont hébergées ici, enfin, est-ce que certains viennent juste dormir ou juste manger, etc. Mais d'autres personnes ont vraiment envie d'un échange avec vous et de prendre le temps de discuter vraiment avec vous et pas que de la pluie et du beau temps. Et de la pluie peut-être aujourd'hui.
Et c'est vrai que c'est pas une chose particulière, c'est une chose vraiment qui est propre à tous. Tous ceux qu'on peut recevoir, que ce soit des laïcs, des gens qui ont des rôles importants même dans la vie civique ou autre, ils ont tous envie de parler, de changer un petit peu d'air, de poser des questions, d'approfondir je veux dire, on parle de tout, voilà, comme avec toutes les personnes.
Questions religieuses ou de foi ou de la vie tout court, hein.
De la vie tout court, hein. Et puis ça nous apporte souvent, effectivement, à aller au fond de l'homme et de temps en temps, pouvoir entendre dire qu'on les a aidés, justement.
Et ça, vous le faites en VI, en version italienne, en VF, en version française, en VA, en version anglaise. Il y en a d'autres ?
Il y en a d'autres, oui, également l'allemand, mais bon, pas encore. Donc, okay. On reste à l'anglais, effectivement.
Alors, et également, Anne-Cécile Brown, vous avez été guide.
Je suis guide.
Vous êtes toujours guide. Et étudiante, vous avez commencé à faire visiter Rome quand vous étiez étudiante, diplômée en lettres classiques à Lyon. Et j'entends souvent parler de Lyon, finalement, depuis Rome. Différentes personnes ont des liens avec Lyon, avec l'association Rencontre Rome. Vous avez proposé des visites à Rome et vous le proposez toujours ? Vous le faites toujours ? Vous accompagnez toujours ?
Alors, moi, j'ai fait ma formation de guide parce que, justement, j'ai étudié lettres classiques. Donc, à l'université, on étudie Rome, l'hommage, etc. Étant étudiante, justement, j'ai commencé à être guide pour les pèlerins français qui venaient à Rome au sein des rencontres romaines. Et puis, j'ai passé le concours de guide touristique. Donc, je suis guide touristique depuis de nombreuses années à Rome. Et c'est quelque chose qui est très riche parce que on voit une ville souvent grâce à une guide et c'est la guide qui vous dit si la ville est belle ou pas et comme ça vous rentrez chez vous avec quelque chose que vous a donné la guide. Donc c'est très très important. La façon de présenter une ville.
Une visite fraternelle en sortant de la maison fraternelle.
Voilà, exactement. Mais également le contenu. Le contenu est très important. Bien présenter l'église, ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on va visiter les églises, édifices, parce que tous les artistes ont travaillé dedans. Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge a donné la Renaissance? Pourquoi la Renaissance a donné le baroque? Et pourquoi le baroque aujourd'hui impressionne encore toujours autant? C'est tout un ensemble. Et effectivement, le livre que j'ai écrit, c'est quand même le fruit de 10 ans de recherche. Et la moitié du livre n'a jamais été publiée dans un guide.
Donc Rome vous surprendra. Réponse aux questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées, qui va nous faire découvrir en détail certaines églises et des éléments de certaines églises.
Alors faire un guide sur tout Rome, ça n'existe pas.
C'est pas possible. Et toutes les églises, exhaustivement, c'est pas possible.
Non, il y a à peu près 2500 églises à Rome, donc je crois que c'est très difficile.
On varie, on m'a dit 500, 600, 2500 ?
Seulement, les paroisses sont déjà à 360 à peu près. Et on en construit 2 ou 3 par an, donc vous voyez que ça continue.
Il y en a des nouvelles.
Oui, en périphérie, ils continuent à construire les églises. Hein. Et puis, il y a celles au centre de Rome. Alors, il y a les petites, les moyennes et les grandes, effectivement. Mais les églises sont très, très nombreuses. Alors, qui est-ce que le pape a appelé ? Les plus grands artistes, donc, qui venaient de Florence ou à côté, quoi.
Con gioia per la nostra salvezza, vogliamo dare tutto a te. Perché tu sei la nostra certezza.
Comment faites-vous? Vous faites votre casting d'église. Enfin, certaines sont incontournables. Je suppose que les visiteurs ou pèlerins ont envie d'aller dans certaines églises, enfin, les plus connues. Et puis, c'est votre rôle aussi d'en faire découvrir d'autres.
Oui, tout à fait. Et puis, ça dépend. Par exemple, un groupe, s'il vient depuis 5 ans, 6 ans à Rome, bon, on prend des parcours un petit peu plus particuliers. Sinon, si quelqu'un vient pour la première fois, évidemment, on ira voir Saint-Pierre. On essaiera également d'aller sur la tombe de Saint-Paul, Saint-Paul hors les murs, et puis la première église au monde qui avait Saint-Jean de Latran. Et puis une fois qu'on a vu ces choses-là, alors la deuxième fois on ira à côté de Saint-Jean de Latran. Alors là il y a Sainte-Croix en Jérusalem où Sainte-Hélène, justement la mère de Constantin, a construit une église parce qu'elle est allée à Jérusalem et elle a rapporté les reliques de la croix du Christ. Il y a également une église qui s'appelle Santo Stefano Rotondo et là qui a exactement la forme du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Enfin voilà, c'est tout un parcours.
Certaines personnes qui sont accueillies ici et que vous guidez régulièrement depuis quelques années.
Tout à fait, il y a des groupes, donc le responsable du groupe revient, les gens changent évidemment, mais une fois qu'il a pris l'habitude, il a apprécié le guide, alors il demande s'il est disponible, donc ça m'arrive souvent, effectivement.
Une vie ne suffit pas, si on veut faire le tour, ou on en a pour toute la vie, finalement.
On en a pour toute la vie. On a également un couple, par exemple, qui maintenant commence à être un petit peu âgé, qui vient tous les ans, 10 jours, ils viennent chez nous, et Rome, ils la connaissent vraiment par cœur, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils viennent, tous les ans, 10 jours.
Ce quatrième Suivez le guide à Rome avec Sœur Anne-Cécile Bram, mais rejoignons Renaud Escande à Saint-Louis des Français et cherchons, comme la plupart des visiteurs, les Caravages.
Seguite la guida a Roma. Suivez le guide à Rome.
« Où sont-ils, les Caravages?
Alors, les Caravages sont là, mais enfin, vous n'allez pas les voir.
Non. Mais ils sont pas partis pendant les travaux.
Les apercevoir. Ils sont donc, quand on regarde le chœur, sur l'aile droite. Ouais. Et c'est la première chapelle après le chœur, la chapelle dite Contarelli, de Mathieu Cointrel, un cardinal français, ouais, qui a fait construire cette chapelle pour son saint patronyme, Saint Mathieu. Et donc, il a demandé à des plus grands artistes de faire cette chapelle. Alors, Mathieu Cointrel, il n'a pas commandé à Caravage parce qu'il est mort avant. Il est juste au milieu de la chapelle. Et c'est ses successeurs, ses exécuteurs testamentaires, qui ont demandé à Caravage d'abord de faire les deux grandes toiles de part et d'autre.
Alors, que représentent-elles?
Alors, les grands moments de la vie de Saint Mathieu. Sur la gauche, la vocation, un tableau des plus connus au monde, la vocation de Mathieu, avec cette éternelle question de qui est Mathieu dans la toile. L'inspiration de Mathieu par l'ange, qui à l'époque était une statue. Donc ce n'est qu'après avoir peint les deux tableaux et la vocation et le martyr, donc la mort de Saint Mathieu sur la droite, que devant le succès des toiles, le cardinal Del Monte, alors l'exécuteur testamentaire du cardinal Contarelli, a demandé à Mathieu, en enlevant la statue,
à Caravage,
de faire une toile représentant Mathieu inspiré par l'ange. Donc, trois grands moments de la vie de Mathieu, la vocation, le début de sa vie chrétienne, l'inspiration, puisque c'est lui qui va écrire un évangile, l'évangile de Mathieu, et la mort par martyr, la mort de Mathieu en Égypte, nous dit la tradition.
Et dans cette chapelle, les deux grandes toiles se font face.
Les deux grandes toiles se font face. Elles sont immenses. Elles ont bien sûr été travaillées en atelier d'abord. Avec la technique de Caravage, vous le savez, ce n'était pas de dessin. Caravage ne dessinait pas ses œuvres. Il allait directement sur la toile en taillant, on appelle ça des incisions, sur la couche d'après, avec le manche de son pinceau ou une truelle, les grandes lignes du dessin qu'il remplissait par la couleur. Et donc, il faisait poser dans l'intérieur de son atelier des gens qu'il trouvait souvent dans la rue. C'est ce qu'on lui a reproché, ce naturalisme propre à Caravage, qui lance en fait par ses œuvres et par cette chapelle qui vraiment l'a lancé dans le milieu romain, il lance la peinture moderne.
Et elles sont effectivement très, très sombres, enfin, les toiles.
Alors
de Caravage.
Alors là, on voit la chapelle telle que, avec certainement deux petites bougies pour le prêtre qui allait, mais les personnes n'y allaient pas. Je pense que c'était un tout petit peu plus éclairé, parce que le vitrail qui est en haut, qui est au palaisant, n'est que du 19e siècle. Il devait y avoir de la vitre claire. Ah, voilà. Donc il y avait un tout petit peu plus de lumière, mais pas tant que ça. De l'artiste actuellement. Je sais ce qu'il va faire, mais je ne vais pas le révéler pour inviter les auditeurs à venir à Rome voir le résultat. Il va faire quelque chose de très très beau.
Ça va probablement changer la perception des tableaux de Caravage.
Puisque les anciennes lumières étaient très jaunes et donc donnaient une couleur au vernis beaucoup trop rouge et jaune. Et donc, voilà. Et... Alors, il y a une grande chose qu'on va changer, c'est que ici, vous voyez, il y a une grande marque toute sale. C'était la machine à sous que je trouvais détestable, où l'on mettait 1 euro
et on avait de la lumière
et 2 euros pour 4 minutes. Alors j'ai décidé en tant qu'administrateur, ça va faire une entaille dans les économies, mais d'enlever tout ça, parce que bon, c'est pas gentil pour les gens qui viennent ici. On attend tous que la personne un peu idiote mette son âme.
Ah oui, c'est ça.
Donc là, c'est fini. Ce sera systématiquement illuminé. Voilà.
Quand la fontaine de Trévis s'apprête à devenir payante, vous vous offrez Caravage.
Voilà, on offrira Caravage et une lumière écologique en plus, parce qu'on fait ça aussi. Voilà, une lumière écologique et une lumière qui sera pérenne. Alors, nous avons pour cela, parce que je vous avoue que ça coûte très cher tout ça, nous avons pour cela quelques mécènes et nous avons réussi à avoir deux grands mécènes qui ont un nom mécène italien, mais devenu français. Alors, Findi et Bulgari.
Et vous n'installerez pas pour autant une boutique l'église?
Non, non.
J'ai une question. Dans toutes ces chapelles de Saint-Louis, il y a 2 siècles ou 3 siècles, on célébrait la messe régulièrement. On réunissait les communautés qui se rapportaient au saint tutélaire. Comment ça se passait?
Il y avait une messe pour le saint tutélaire, pour le saint par an. Mais en fait, il faut s'imaginer que nous sommes bien sûr bien avant Vatican II, et donc que des messes étaient dites par les prêtres tous les jours. dans les hôtels, voire plusieurs fois par jour. Donc en fait, elles étaient systématiquement occupées par des prêtres et par les servants de messe. Pour ceux qui sont plus âgés, ils ont encore le souvenir de cela. Tous ces hôtels latéraux étaient utilisés pour des messes.
Chez Caravage, on pourrait dire chez Caravage, oui. Célèbre-t-on encore ?
Alors non, on ne célèbre plus pour des raisons de sécurité, il y a une alarme, et puis pour des raisons aussi d'air et d'humidité. Avec les buées, on ne peut pas célébrer dedans, mais on célébrait à l'époque pour la mémoire, et il l'avait demandé, de Mathieu Cointrel. On priait, on œuvrait par la liturgie pour le salut de son âme.
Ce sont ces trois tableaux de Caravage qui drainent un nombre, bien sûr il y a les fidèles de Saint-Louis des Français, mais qui drainent un nombre énorme, je suppose. Alors déjà, il y a le nombre de visiteurs, de touristes, etc. Pèlerins à Rome est colossal, donc je suppose que la fréquentation est colossale aussi.
Alors c'est justement ce que j'ai voulu, avec Madame l'ambassadrice, essayer de modifier quelque peu, parce que c'est vrai que la plupart des touristes qui rentrent dans les pèlerins, je ne fais pas trop la différence entre pèlerins et touristes, moi, Rome, enfin, de toute façon, dans une ville comme Rome, faire la différence entre le culte
et la
culture, c'est un peu compliqué, et je pense que c'est une erreur. Mais quand les touristes pèlerins rentrent, ils courent, pour ne pas dire autre chose, voir Caravage, et ne s'arrêtent pas devant les splendeurs qui sont ailleurs, dans toutes les chapelles, le dominicain, Titien, il y a des choses extraordinaires à voir. Gricci, la seule chapelle faite par une femme, la chapelle Saint-Louis, justement, qui est juste à côté.
Plautilla Bricci, architecte et peintre, est née en 1616 à Rome, morte à l'âge de 89 ans en 1705. On lui attribue la conception de la chapelle dédiée à Saint-Louis et la peinture du retable. Elle est historiquement la première femme architecte.
Donc c'est quand même dommage. Et donc on voudrait, avec l'ambassadrice, réfléchir à un parcours dans l'église pour, non pas obliger, mais inciter les pèlerins à, bien sûr, terminer sur Caravage, mais à parcourir l'église et à se laisser un petit peu émerveiller par toutes les splendeurs qui la jalonnent.
Si on ne peut pas se déplacer à Rome pour retrouver l'étoile de Caravage, je pense qu'elles sont dans cet ouvrage qui...
Exactement.
Donc ce gros livre, ce beau livre qui pèse son poids et qui est dédié aux églises françaises de Rome.
Oui, exactement. Toutes les églises donc sont représentées dans ce livre qu'on a initié dès mon arrivée avec Madame l'ambassadrice et différents acteurs.
Et puis dans Denis Chamin.
Dans Denis Chamin et dans cette immense collection qu'est la grâce d'une cathédrale. Donc c'est vraiment pour nous un titre de gloire que nos cinq églises. C'est la première fois qu'un livre sort de France, hein. Un livre de cette collection sort de France pour mettre à l'honneur cinq églises ici à Rome. Et donc, bien sûr, on retrouve les Caravage, on retrouve Saint-Louis, on retrouve les beautés de Saint-Nicolas et de toutes les églises. Mais, et ça c'est un titre, quelque chose qui me touche moi en tant que prêtre et en tant que religieux, c'est que cette collection-là, voulue par Monseigneur Doré, qui m'a ordonné prêtre, c'est quelque chose qui me touche d'autant plus. Mais ce qui m'intéresse dans cette collection, c'est que certes, elle pèse son poids physique, mais elle pèse son poids en information érudite, historique, tout ce que vous voulez. Mais elle présente aussi la vie de ces pierres vivantes qui font que ces églises ont encore une âme. Et ça, c'est superbe. Et ça, c'est vraiment bien dans la collection, parce que ce ne sont pas des musées que nous visitons, ce sont de véritables lieux de vie, lieux de prière. Et ça, pour le coup, le livre le met en avant, et c'est une dimension qui me plaît beaucoup.
Et tu l'as vu, Thierry, les églises françaises à Rome, elles vivent.
Ah oui, absolument.
Ce ne sont pas des églises fermées qu'on vient voir de temps en temps. Où elles sont toutes, chacune, des lieux vivants. C'est ce que nous avons voulu ensemble.
Exactement. On y travaille. On va réouvrir d'une manière continue l'église Saint-Nicolas des Lorrains ainsi que l'église Saint-Yves des Bourguignons. Et nous avons même inventé, j'ai demandé. Saint-Yves des Bretons, pardon. J'ai dit des Bourguignons. Je m'y mélange un peu au bout d'un moment.
C'est normal, vous en avez cinq.
Exactement. Moi, je suis dans le Albigeois et on n'a pas d'église. J'en suis désolé. Non, nous avons aussi voulu mettre en place d'une manière pérenne, mais le jubilé est un prétexte. Une application sur nos téléphones pour accueillir les pèlerins touristes à Rome durant le jubilé, mais pour les années qui viennent. Et pour cela, nous avons demandé à un historien d'art et un spécialiste de romans policiers, de nous faire...
Une espèce d'enquête comme ça.
Voilà, de nous faire une enquête entre les cinq églises. Ça dure 4 heures. Je connais la solution, je ne la dirai pas au micro. C'est assez difficile et en visitant toutes les 5 églises et en les parcourant dans un temps imparti, nous avons à trouver l'indice qui nous permettra de passer à la suivante pour résoudre l'énigme qui, c'est la seule chose que je puisse dire, se passe en 1783.
Voilà, faut pas tout mélanger, c'est pas ici qu'on va trouver la fameuse chouette.
Non, non, c'est une manière ludique, érudite et spirituelle de visiter les églises.
Et de s'amuser, finalement.
Et tout en faisant de s'amusant, voilà, tout à fait.
Appréhender, aborder, enfin préparer l'année jubilaire.
C'est tous les 25 ans. On savait depuis longtemps que c'était là.
On a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'agitation de dernière minute.
Alors voilà, mais ça c'est très italien. C'est très italien. Les Italiens font tout extrêmement bien, mais à la dernière minute. Dernière minute. Donc nous y travaillons avec l'ambassadrice et les recteurs des 5 églises. Nous y travaillons depuis des mois. Nous proposons un énorme programme d'événements. Nous travaillons à l'accueil des pèlerins français et francophones avec des événements spirituels, culturels. Le programme est très chargé et les 5 églises seront mobilisées, vraiment.
Vous avez le temps de prier ?
Absolument, bah, tout ça. Laborare et ora, ça va ensemble. Prier et travailler pour un dominicain, c'est parfait.
Vous parliez de francophonie, mon père. Est-ce qu'on peut considérer que Saint-Louis des Français, outre d'être notre église nationale, est aussi un peu l'église des francophones dans le monde?
Absolument. J'en veux pour preuve qu'il y a maintenant 3 semaines à peine, le prince de Monaco est venu visiter l'église et dévoiler une plaque qui est juste derrière nous.
On peut aller la voir. On peut cacher. Non, elle est pas cachée. Vous avez accueilli. Voilà, on dit Monseigneur
ici,
d'ailleurs.
Ici, Monseigneur est arrivé pour dévoiler cette plaque qui commémore l'enterrement de son aïeul, le prince Louis Ier de Monaco, qui était ambassadeur de France près le Saint-Siège et qui est mort en 1701. Ici, dans cette église. Mais les Belges, nous avons beaucoup de cérémonies avec nos amis belges, avec nos amis de francophonie africaine, avec les Canadiens. Il y a beaucoup, beaucoup de réunions qui se passent ici, autour de l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, pour accueillir, bien sûr, ces moments de la francophonie.
Donc, c'était sympa d'accueillir Albert de Monaco ?
Très sympathique. Vraiment quelqu'un de très à l'écoute, de très simple, qui a pu admirer. Alors, on a ouvert la chapelle Contarelli exprès pour lui, et juste après, on a remis les échafaudages. Voilà.
Vous accueillez régulièrement des personnalités.
C'est le passage un peu obligé à Rome, parce que nous sommes très très bien situés, l'église, comme l'église Saint-Nicolas du reste. On est entre la place Navone et le Panthéon. C'est vraiment la Via del Salvatore qui est juste là, juste sur notre gauche.
Je pense que la plupart des visiteurs passent de toute façon par là, même sans...
C'est absolument la voie la plus passante de Rome. C'est véritablement l'église connue, visitée par les touristes pèlerins de tout pays.
Mais je pense à cette personnalité, donc quand les officiels viennent à Rome...
Exactement, ils viennent, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents, qu'ils soient M. Elon Musk, par exemple, qui est venu ici avec tout son staff. Tout le monde vient ici pour...
Vous les accueillez à chaque fois vous-même?
Alors, moi, où est M. le recteur Monseigneur Breguet, qui est le recteur de l'église ici, le recteur de l'église des Français à Rome.
La chapelle Saint-Nicolas, est-ce qu'elle fait l'objet d'une attention particulière?
C'est l'ancien
lieu de rassemblement.
Ah, voilà, d'accord. Avant Saint-Nicolas des Lorrains.
Voilà l'ancienne, la chapelle Gricci. Alors, on ne la voit plus parce qu'elle est sous les échafaudages, mais c'est une des rares chapelles, et c'est extraordinaire, totalement pensée et réalisée par une femme, Plautilia Gricci, au 18e. Ouais. C'est magnifique. C'était une spécialiste de décor de théâtre. Alors, on voit l'immense rideau en stuc qui est devant la chapelle. C'est baroque à souhait. Et c'est véritablement une femme qui a totalement pensé la chose.
Et c'était tout aussi rare qu'il y ait à l'époque, je pense, une femme. Exactement. Vraiment décoratrice de théâtre. Hein.
Exactement. Alors, voilà la chapelle Saint-Nicolas. À l'époque, elle était la chapelle des Lorrains. De la confraternité des Lorrains, qui après ont eu, sous un dule du pape, hein, par une bulle, ont eu la chapelle que vous connaissez, la chapelle des Lorrains, derrière la place Nabonne.
On va pouvoir sortir, et voilà. Et il me reste vraiment à vous remercier, Renaud Escompte. Vraiment, on a beaucoup de chance hein, avec vous.
Bien, merci beaucoup et bienvenue à Rome. Nous vous accueillons les bras ouverts.
Et même après 2025.
Même après, et surtout parce qu'il y a beaucoup de monde après 2025.
L'oderò circondato, perché la mia lode è l'acqua dove il nemico affonda. Finché avrò il respiro, avrò un motivo e loda il Signor, anima mia.
Quittons Saint-Louis des Français et Renaud Escande, l'administrateur des pieux établissements. Retour à Fraterna Domus avec Sœur Anne-Cécile Bram.
Seguite la guida in Italia. Suive lo guide en Italie.
Qu'est-ce qui, pourrait, si on se plonge dans votre livre, Anne-Cécile Bram, Rome vous surprendra, qu'est-ce qui pourrait me surprendre le plus?
Peut-être explication du tableau du Caravage, la vocation de Saint-Mathieu, puisqu'en 400 ans, personne n'a écrit ce que j'ai écrit.
Ah oui, le tableau Saint-Mathieu qui est à Saint-Louis des Français.
Exactement. C'est le tableau le plus fameux du Caravage, puisque ça a été le plus beau, effectivement. Mais c'est une explication qui est partie vraiment de la structure hein, du tableau, alors que généralement, on parle de l'impression qu'on a du tableau. Alors, en bonne cartésienne, je dis, bon, ben, on va tirer les diagonales, les verticales, etc. Et puis, je me suis posé la question également, comment ça se faisait que le Caravage, qui met très très peu de détails sur ses tableaux, et mis une fenêtre aussi grande, et alors en tirant les lignes, j'ai retrouvé une autre fenêtre au milieu des personnages. Je vous laisse lire l'article.
C'est un vrai boulot d'enquêtrice, finalement.
Tout à fait, absolument.
Wow. Ah oui, que je l'ai vu hier, d'ailleurs, enfin, aperçu hier, dans une relative pénombre, puisque Saint-Louis des Français est en travaux. Oui, donc c'est indispensable de pouvoir décoder le tableau grâce à vous, effectivement. On va peut-être terminer en allant découvrir la vôtre ici, puisque si vraiment on n'a pas envie de sortir, s'il pleut trop fort, si on veut visiter une église, et ben vous en avez une à domicile.
Tout à fait. Il y a une église donc qui était là avant la maison, qui remonte au 6e ou 7e siècle et qui s'appelle Santa Lucia della Tinta.
On peut aller jeter un œil ensemble, Anne-Cécile. Allez. Je précise que le livre, là aussi on parlait de version, donc il est en italien, en français et en anglais. Et vous le dédicacez, bien entendu.
Bien sûr. Et puis en préparation également l'audio guide.
Arrivé, je cherchais, je ne voyais personne, enfin où aller, vers le fond, je suis avancé, il n'y avait personne, et puis monter, non, et je me disais mais où aller? Je regardais, donc là il y a un escalier qui permet de descendre vers la salle de restaurant, et je me suis dit, ben tiens, la porte en face, c'est peut-être la cuisine ou un truc comme ça, et donc j'ai poussé la porte de ce qui je pensais être peut-être la cuisine, et j'ai découvert quoi? Eh ben l'église, il y a un accès direct, on peut passer par l'extérieur, mais une petite porte comme ça, et c'est ça qu'on aime à Rome finalement, parce que là je vois que la grande porte est ouverte, entrer par une petite porte, pas secrète, mais il y a un petit effet comme ça, et se retrouver, waouh, dans l'église.
Elle fait partie des grandes surprises de Rome, effectivement, et que ce soit dans les rues ou bien à l'intérieur des édifices. C'est vraiment ça, on découvre plein de choses, plein de choses.
Alors, et votre église, hein, c'est pas une petite église non plus. C'est pas une chapelle, hein.
C'est pas une chapelle, elle a été paroisse pendant 500 ans. Aujourd'hui, c'est l'église des avocats de la Rote romaine, la Rote romaine, qui est un des tribunaux du Vatican.
Ah,
eux, ils viennent deux fois par an. Et donc, nous, qui sommes ici depuis 50 ans maintenant, en fait, on l'a sauvée, puisque le toit perdait de l'eau, c'était inondé quand il pleuvait et tout. En fait, petit à petit, on est réussi à restaurer le toit, à restaurer le plafond qui est en bois. L'église donc, a été refaite trois fois. Elle a été faite donc, au 7e siècle, certainement. Ensuite, en 1290, puisque ici à gauche, on a le texte de la bulle du pape Nicolas IV. Et là, on est en 1290. Et vraiment, il raconte l'histoire en disant qu'il donne une indulgence à qui vient prier Sainte-Lucie, puisque l'église est dédiée à Sainte-Lucie. Parce que l'église vient d'être refaite. Donc là, on a vraiment un texte du pape qui nous dit qu'en 1290, l'église était toute neuve, hein, effectivement.
Et là, elle est assez neuve quand même. Et puis, à quelques semaines de l'année jubilaire, je vais exagérer un peu, mais dire que c'est pas l'une des rares. Mais enfin, il y a tellement d'églises à Rome qui sont en travaux, celle-ci ne l'est pas. Hein.
Elle ne l'est pas, effectivement, parce qu'on essaye de la maintenir à peu près bien. Alors, il manque simplement la restauration des murs, et puis on espère qu'un jour, quelqu'un pourra sponsoriser au moins la chose. Mais je dois dire que c'est une histoire qui est très très intéressante également parce qu'on retrouve un petit peu tous les siècles, mais on retrouve beaucoup l'histoire de Rome. Par exemple, cette église est dédiée à Sainte-Lucie, donc on en a deux. Il y en a une à droite qui est l'autel de Sainte-Lucie et c'est Sainte-Lucie de Syracuse hein, qu'en fait le 13 décembre, elle est morte sous Dioclétien, donc autour de l'année 300. Puis il y a une autre Sainte-Lucie à laquelle était dédiée au départ l'église, puisque les premières églises de Rome étaient dédiées à des saints romains. Et donc là, c'est Sainte-Lucie, mais matrone romaine. Et donc, on la voit sur le tableau du XVIIe, avec Sainte-Lucie et Saint-Geminiano, qui étaient son mari. Donc, ils sont morts martyrs, eux aussi, sous Dioclétien.
Et on vient prier Sainte-Lucie pour une ou des raisons particulières.
Oui, bien sûr, parce que Sainte-Lucie...
On a le choix, si on veut prier ici à Rome, on peut choisir son saint, véritablement.
Hein. Ah oui, là, on a le paradis tout entier, là. Alors, Sainte-Lucie de Syracuse, on lui a arraché les yeux. Ça, ça a été son martyr. Donc, ceux qui sont malades, qui ont des maladies des yeux ou bien qui sont aveugles, alors ils viennent prier Sainte-Lucie. Ça, c'est vraiment la sainte des yeux.
En revanche, sur les murs, ça ressemble, ça, je ne sais pas si ça ressemble à du marbre, mais ce n'est pas du marbre.
Alors, les murs, ce sont des fresques et c'est du faux marbre. Donc ça date de 1850. Et en dessous, il y a des petits bouts qui sont tombés, parce que l'église est très, très humide, parce que les pieds, en fait, de l'église, les murs de fondation sont dans le Tibre. Oui. Alors, toute l'humidité remonte. Et donc, les fresques, effectivement, le mur et tout, on voit les couleurs qui tombent petit à petit. Mais, enfin, bon, elle est encore très belle. Mais en dessous, on a trouvé la couleur originale qui était orange et rose. Donc, en fait, quand elle sera restaurée, on reprendra.
C'est le projet d'une nouvelle restauration ?
Oui, ben ce serait pas mal d'ailleurs.
Oui. Et prévu pour quand ? Ah ben, après l'année jubilaire, c'est certain.
Après le jubilé, et puis bon, on espère que ça se fera parce que elle deviendra complètement différente. Comme il n'y a qu'une fenêtre, une grande fenêtre, alors la couleur au départ, qui est beaucoup plus logique, donc était beaucoup plus claire.
Donc vous allez faire réapparaître les.
Oui, ben on reprendra la couleur originale, donc le rose-orange, voilà. Maintenant, c'est du vert.
Oui, plutôt.
Sur l'autel, donc, il y a une fresque. Cette fresque est importante parce qu'elle a été mise ici en 1545. Alors, la partie centrale qui représente la Vierge assise avec l'enfant Jésus était sur une maison. Parce que quand vous vous promenez dans les rues de Rome, vous trouvez très souvent des Vierges qui sont sur les murs des maisons. Ce sont des fresques Et les gens, pendant tout le Moyen-Âge, s'arrêtaient, priaient quand ils se promenaient dans la rue. Et surtout, il y avait une petite lumière qui était mise devant, qui était une lumière votive, mais la nuit, il n'y avait pas d'illumination comme aujourd'hui. Donc les seuls petits points lumineux, c'était toutes ces vierges qui étaient illuminées. Ça permettait comme ça de reconnaître un petit peu la rue, de ne pas se perdre, etc. Voilà, ça c'était l'illumination à l'époque.
Ouais, donc c'était un chemin de vierge finalement.
C'était un chemin de vierge qui permettait... Vous savez, sainte Françoise Romaine, là, qui a vécu au XIVe siècle, elle voyait son ange gardien et son ange gardien lui éclairait la route le soir. Parce que justement, on ne voyait rien. Mmh. Et elle allait chercher les malades, abandonnés, etc., dans la rue, et puis elle les recueillait. Elle avait fondé son ordre religieux. Un petit détail amusant, c'est que Pie XI, qui était le premier à avoir une voiture parmi les papes, après la calèche, donc il a eu une voiture, une vraie voiture. Et donc, on est dans les années 30.
C'était une papa mobile, hein. On ne disait pas papa mobile, mais enfin, voilà. Forcément, c'était une papa mobile.
Ah oui, tout à fait. Donc, on est autour de 1930. Hein. Et lui, il a choisi sainte Françoise Romaine comme patronne des automobilistes. Parce que justement, l'ange lui éclairait les rues le soir. Donc c'est amusant en fait d'avoir modernisé le personnage de sainte Françoise Romaine. Voilà.
Il y a tellement d'histoires à raconter. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Alors cette fresque est intéressante parce que ce sont les cochers qui l'ont apportée dans cette église. Eux, ils étaient très dévoués, ils avaient une très grande dévotion à cette Vierge. Quand ils ont fondé leur confraternité dans cette église, donc leur confraternité, à Rome, il y en a beaucoup, et ce sont des associations de personnes du même métier. Et donc, ils ont mis à gauche de la Vierge Saint-Joseph, et à droite, ils n'ont pas mis Sainte-Lucie, ils ont mis Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est morte sur une roue. Et comme eux, ils faisaient les roues des chars, alors ils ont mis Sainte-Catherine, qui a simplement détrôné Sainte-Lucie, parce que là, c'est l'autel majeur.
Ah oui, bah c'est tout à fait cohérent.
Ouais. Absolument. Mmh. Donc les saints, très souvent, c'est simplement la signature ou d'une communauté ou d'une confraternité. Ou... Donc ça, ce sont tous les saints qui sont représentés sur des tableaux ou autres. Chacun a son but.
Vous avez essayé d'entrer dans quasi toutes les églises de Rome depuis que vous êtes ici.
Alors,
pousser la porte de quasi toutes les églises.
Quasi toutes, non. Mais beaucoup. Les plus intéressantes, oui, effectivement. Il y en a beaucoup qui sont fermées, mais bon, petit à petit, on trouve les personnes qui nous permettent de les voir. Et il y en a une qui est ouverte maintenant depuis quelques années, 2 heures le soir, je vous le dis, si jamais vous venez à Rome, entre 17 et 19 heures, et qui s'appelle Saint-Jérôme de la Charité, Saint-Girolamo de la Carità, qui était l'ancienne paroisse de Saint-Philippe Neri. Il est resté 33 ans là-bas. Et donc là-bas, il a fondé l'Oratoire, donc sa communauté, où justement c'était une communauté éducative et qu'elle est encore aujourd'hui. Ils ont recueilli des centaines et des centaines d'orphelins. Et donc ceux de sa communauté étaient là pour l'enseignement, pour la formation de tous ces enfants. Il a eu l'intuition, disons, il a parlé avec le crucifix qui est dans l'église. Voilà, là, ça a été vraiment reconnu. Et donc, c'était un homme très mystique et très concret à la fois. Et donc, ça a été sa paroisse. Alors, c'est une très, très belle église qui a été refaite, évidemment. Mais c'est un lieu fondamental dans l'histoire de Rome et des saints qui ont vécu à Rome. Voilà.
Je me demandais si on pouvait se lasser d'entrer dans des églises à Rome.
Non.
Il y en a partout, hein, partout.
Mais alors évidemment, si on n'a rien entre les mains, pas de livre ou autre, ouais. C'est sûr qu'on se lasse. Si par contre on a des clés de lecture, alors là c'est complètement différent parce qu'on retrouve l'histoire. En fait, c'est un petit peu comme un roman policier. On suit d'une église à l'autre, d'une rue à l'autre, et puis on retrouve toute l'histoire.
Il faut bien une vie, hein, pour découvrir tout ça.
Hein. Ah oui, sans problème, sans problème. Ouais.
Ben, merci beaucoup, Anne-Cécile Bram. Vraiment, hein, bel endroit. Fraternita Domus, les chambres, simples, mais très confortables, pour prendre ses repas. Boire une bière, je ne l'ai pas fait, peut-être ce soir. Parce qu'on peut aussi boire une bière.
Bien, hein. Sûr.
Bien sûr. Et puis, passer ici, dans l'église. C'est assez complet. Hein.
Très complet. C'est un des rares lieux qui est aussi complet, effectivement.
Quand les clients, parfois, vous ont un peu fatigué, donc, Anne-Cécile, vous venez vous asseoir ici.
Oui, mais tout à fait. Mais les gens également.
Aussi.
viennent en fin de journée, souvent, on les voit assis, ils se reposent, ils méditent, ils prient, tout à fait. Puis souvent, on a des groupes de jeunes, de plus grands ou autres, ils viennent le matin, le soir, ils viennent prier. Quand il y a des prêtres également qui veulent célébrer la messe, l'église est à disposition. Voilà. C'est un lieu très vivant.
Oui, effectivement, moi, que je suis arrivé, il y avait tout un groupe de jeunes, c'est... Très variés finalement, celles et ceux qui viennent loger ici à Fraterna Domus. Hein.
Oui, mais il y a également des séminaristes qui viennent le matin, avant leur cours justement, parce qu'il y a l'université juste à côté, ils passent une heure dans la chapelle pour prier. Voilà.
Vous êtes heureuse ici?
Tout à fait, tout à fait. C'est un lieu, au moins, on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai toujours kiffé une dépression, on devrait venir ici, parce qu'après 2 semaines, ça lui passe complètement, là, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est la fin de ce 4e Suivez le Guide à Rome, préparé et enregistré avec Denis Chamin, chancelier de l'Association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains à Rome et fil rouge de la série. Grazie mille Anne-Cécile Bram et Renaud Escande. Grazie mille aussi Maria Cristina pour le don de ta voix.
Prego e con piacere.
Réalisation Roman Feocchio. Les sites internet lesamisdesaintnicolasdeslorrainsarome.fr, saintlouis-rome.net et fraternadomus.it.
Grazie mille, arrivederci a Roma. Merci beaucoup et à bientôt à Rome.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Maurice Zundel, je reçois cette semaine Béatrice Soltner pour évoquer la vie et l'œuvre de cette grande figure spirituelle.